Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nous sommes face à un ouragan que nous n'avons, comme nous n'en avons jamais connu dans l'histoire des Bahamas. Voilà la déclaration inquiète du premier ministre de l'archipel ces dernières heures. L'ouragan Dorian s'est abattu sur les Bahamas avec son lot de pluie torrentielle et de vents violents. L'extrême droite allemande gagne encore des points en Allemagne de l'Est, en Saxe et dans le Brandebourg. Elle est deuxième au régional qui s'y tenait hier. Nous rejoindrons notre envoyé spécial pour une analyse. Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur la rentrée scolaire. C'est aujourd'hui, lundi 2 septembre. Vous comprendrez pourquoi il manque encore des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. Des vents de plus de 300 km/h, un phénomène catastrophique selon les analystes américains. L'ouragan Dorian a donc frappé les Bahamas avec violence cette nuit. Le premier ministre de l'archipel a pris la parole, Hubert Minnis.
We're facing a hurricane.
Nous faisons face à un ouragan Dorian qui est le pire que l'on ait jamais vu dans toute l'histoire des Bahamas. Beaucoup ont choisi de rester chez eux, notamment dans l'ouest de l'archipel, et ont refusé de quitter leur maison. Je peux seulement leur dire que j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'ils entendent ma voix et que Dieu leur vienne en aide. C'est probablement le jour le plus triste et le plus difficile de ma vie en m'adressant aujourd'hui au peuple des Bahamas. En tant que médecin, j'ai été entraîné à supporter beaucoup de choses, mais rien de cette ampleur.
C'était le premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, traduit grâce à notre correspondant Grégory Phillips. L'ouragan Dorian se dirige maintenant vers les côtes de la Floride qu'il devrait longer d'ici demain. Les manifestants pro-démocratie hongkongais ont de nouveau tenté de perturber la circulation des métros ce lundi. Vêtus de noir, couleur emblématique du mouvement, ils ont bloqué ce matin les portes des rames dans quelques stations après un week-end marqué par de graves violences, des affrontements avec les forces de l'ordre toujours, alors que le mouvement anti-Pékin dure depuis 3 mois maintenant. En bref, encore ces échanges de tirs hier entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a fait état de plusieurs tirs de missiles anti-chars en provenance du Liban, précisant qu'il n'y avait pas eu de victimes. Une riposte a été menée contre des cibles au sud Liban. Elle était attendue et elle est plus forte que prévu. La percée de l'extrême droite allemande en Saxe et dans le Brandebourg. Au terme de 2 élections régionales hier, si les partis traditionnels restent premiers, c'est le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, qui a engrangé de nouveaux électeurs. Il se place deuxième dans ces 2 Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, Ludovic Piétenu.
L'AfD confirme que ces 2 régions sont bien ses bastions. Ce parti s'y installe comme 2e force politique avec un gain de 11 points en 5 ans dans le Brandebourg avec 23,5% des voix et un gain de 18 points en Saxe à 27,8%. Sous-estimé par les sondages, l'AfD ne rate la première marche que de quelques points, 5 points derrière les conservateurs de la CDU qui gardent la direction de la Saxe et 2 points et demi seulement derrière les sociodémocrates du SPD qui restent encore le parti majoritaire dans le Brandebourg. Ces 2 partis traditionnels que l'on disait rejetés y ont bien laissé des plumes, mais la crainte d'une victoire de l'extrême droite a remobilisé leur électorat ou a fait faire une sorte de vote utile à des électeurs tentés par d'autres forces politiques. On le voit bien dans les résultats favorables au SPD. A contrario, c'est le parti de gauche, Die Linke, qui subit de lourdes pertes dans cette ex-Allemagne de l'Est où il restait encore assez fort. Et puis les Verts, qui enregistrent depuis un an des résultats électoraux significatifs en Allemagne, ont progressé, c'est vrai, mais sans doute pas autant qu'ils auraient pu. Résultat, un statu quo dans ces 2 régions qui devrait donner un tout petit peu d'air à la coalition entre conservateurs et sociodémocrates au pouvoir à Berlin. Une défaite de l'un ou l'autre de ces partis aurait sans doute fait chanceler dangereusement l'attelage gouvernemental autour de la chancelière Angela Merkel.
En Tunisie, la campagne pour la présidentielle démarre aujourd'hui lundi. 26 candidats sont en lice pour un scrutin très ouvert. C'est le 2e depuis la révolution de 2011. Début de la campagne donc, et dans la foulée, les Tunisiens éliront leur nouveau parlement. Notons aussi ce refus. L'Union européenne ne souhaite pas renégocier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. Le négociateur en chef, Nicole Barnier, l'a dit hier. Cela renforce l'hypothèse d'un no deal, un Brexit sans accord prévu le 31 octobre prochain. Les opposants à cette idée au Royaume-Uni se préparent d'ailleurs à un bras de fer avec le Premier ministre Boris Johnson. Ce sera dès demain lors de la reprise des débats au Parlement. Les vacances sont terminées en France pour près de 12,5 millions d'élèves. C'est la rentrée aujourd'hui. Et reviennent avec elles les interrogations, les tensions face aux réformes du gouvernement. En ce 2 septembre, l'instruction est obligatoire dès 3 ans. La réforme des lycées touche les élèves de première sous les critiques des syndicats d'enseignants. Critiques également cette année face à la prise en charge des élèves en situation de handicap. Ils seront 361 000, soit 23 500 de plus que l'année dernière. 4 500 accompagnants appelés AESH ont été recrutés pour aider ces élèves. Mais il restera des manques d'effectifs, précise Stéphane Crochet, il est secrétaire général du SE UNSA.
Pour cette rentrée, des modifications sont en effet en cours, mais enfin les choses ne vont pas si vite. Et les conditions de travail, et tout particulièrement de rémunération des accompagnants, est un sujet sensible. Donc il va avoir du mal à recruter des accompagnants. Et donc on aura en cette rentrée des difficultés comme on en connaît chaque année. On a vu là, dans des écoles, dans des établissements, des accompagnants prendre contact. Fin juin, début juillet, ils étaient recrutés pour début septembre. Et puis dans l'été, ils ont trouvé un autre emploi, un emploi à temps plein, rémunéré à temps plein, eh bien, les raisons économiques font qu'ils ont appelé dans l'été pour dire que non, ils ne seraient pas là à la rentrée. Donc les procédures de nouveau recrutement sont en cours.
Sans parler du manque de formation, très souvent des enseignants qui ne sont pas toujours prêts à recevoir des enfants en situation de handicap.
Quand on dit enfants en situation de handicap, on utilise une seule expression pour une diversité de cas et que la formation dans l'absolu, elle ne peut pas exister, on ne peut pas être formé à accueillir tous les handicaps. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut au plus vite un accompagnant, c'est pour ça qu'il faut ensuite assez rapidement avoir cette formation pour mieux comprendre comment répondre aux besoins de cet élève qu'on accueille dans l'école.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi que nous retrouverons tout au long de la matinée. En ce jour de rentrée scolaire. Nous y reviendrons aussi avec Jacques Munier dans son journal des idées. Ce sera après cette édition. Une centaine de militantes du collectif Nous Toutes se sont rassemblées hier soir à Paris, place du Trocadéro. Elles dénoncent le 100e féminicide de l'année en France, alors que s'ouvre demain un Grenelle destiné à lutter contre les violences conjugales. Samuel Monod était présent lors du rassemblement hier.
Chantal, Isabelle, Chérine, Taïna, les noms de ces victimes de féminicide en 2019 affichés tristement par la centaine de militantes présentes au Trocadéro. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, veut débloquer 1 million d'euros pour le plan d'urgence contre les féminicides, insuffisant pour Caroline Dehas du collectif Nous Toutes.
C'est totalement à côté de la plaque, on a besoin de beaucoup plus. C'est pas d'un million dont on a besoin, c'est d'un milliard. Moi je pense que Marlène Schiappa elle est volontariste, mais quand on veut faire bouger un pays comme la France avec 60 millions de personnes, c'est pas uniquement la secrétaire d'État à l'égalité qui doit se mobiliser. C'est le Premier ministre et le Président de la République.
Également, le gouvernement lance un Grenelle des violences conjugales qui démarre ce mardi jusqu'au 25 novembre. Selon Iseline, militante féministe, c'est une simple opération de communication.
La vérité, c'est que les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, ils existent. On a des ordonnances de protection, on a un système de dépôt de plainte, on a des places d'hébergement, alors il n'y en a pas assez.
Et surtout, selon le collectif Nous Toutes, le problème des violences faites aux femmes doit être pris à la source. Sandra, une autre militante.
La police n'est pas formée, elle ne prend pas les plaintes ou elle refuse d'appliquer des ordonnances de protection. On aimerait surtout qu'il y ait des actions en amont.
Des actions en amont comme la mise en place d'un brevet de la non-violence dans les écoles ou encore un plan de formation obligatoire pour les professionnels au contact des femmes victimes, notamment chez les policiers et les juges.
L'attaque à l'arme blanche qui a fait un mort et 8 blessés samedi à Villeurbanne est le fait d'un homme non fiché, apparemment psychotique selon le procureur de Lyon. Il ne semble pas, a-t-il ajouté, il ne semble pas lié à une organisation terroriste. L'agresseur est en garde à vue, c'est un ressortissant afghan. Les nouveaux taux d'imposition ont été distribués. Cela a d'ailleurs déjà été appliqué par certains employeurs, faisant ainsi baisser ou augmenter les salaires nets d'impôts. Le taux a été adapté en fonction des salaires pris l'année dernière, mais il peut encore être changé par chacun à l'an jumé.
Le 1er janvier dernier, au moment de la mise en œuvre du prélèvement à la source, votre taux a été défini sur la base de vos revenus 2017. Grâce à votre dernière déclaration de revenus, celle faite au printemps dernier, le taux a pu être recalculé. C'est désormais l'année 2018 qui sert de référence. Mais ça ne vous a pas échappé, nous sommes en 2019 et donc vos revenus ont pu encore varier d'une année sur l'autre. Si vous gagnez significativement moins qu'en 2018, vous pouvez demander à ce que votre taux soit abaissé. Une demande qui s'effectue sur Internet, c'est le plus simple, ou si vous n'y avez pas accès dans votre centre des impôts. Alors attention, pour pouvoir faire cette modification, il faut qu'il y ait un écart d'impôt d'au moins 10%. Tout se passe entre le contribuable et le fisc. Ensuite, le nouveau taux sera transmis de manière dématérialisée à votre employeur et pris en compte sur la paye du mois suivant ou du mois d'après, selon la date à laquelle a été faite la demande. S'il y avait une erreur ou un questionnement sur le taux, c'est bien l'administration fiscale, on le rappelle, qui doit être sollicitée.
Quelques mots de la météo. En ce lundi matin, le soleil va s'installer sur tout le pays dans une ambiance encore un peu fraîche avec 17 degrés à Rouen, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 à Bordeaux, 28 à Nice ce matin.